Mon ami Xavier Savard-Fournier, qui est aussi un ami de Pierre, est un journaliste indépendant qui a passé les 6 derniers mois à se promener partout dans le monde pour couvrir la COVID et autres tâches connexes. Et là, il vient tout juste de revenir. Je manque pas mon occasion de jaser un peu de ce trip-là quand même. Quelque chose de bien, bien... dans des conditions bien, bien particulières. Bonjour, Xavier.
Salut, Paul-Raphaël. Je suis quasiment déçu de pas être dans une grue, finalement. Là.
Ouais, ben, écoute, je suis content qu'on se parle, mais c'est sûr que si le gars de la grue appelle pendant l'entrevue, il est obligé de te flusher.
Coupe-moi, je comprends ça, hein. Je comprends ces affaires-là.
Hey, Xavier, t'es revenu quand exactement de ton voyage? Puis raconte-moi un peu où est-ce que vous êtes allé.
Écoute, je suis revenu le 1er décembre au soir, tout juste pour voir les premiers flocons arriver. J'ai comme ramené la neige. C'est le fun, hein? J'amène la neige avec moi, pognée dans ma quarantaine. Puis comme tu disais, ça fait 6 mois que je me déplace comme indépendant, mais avec un projet qui s'appelait Projet 12-12, un projet qui existait avant la pandémie, là, qui devait être de 12 villes en 12 mois. Puis là, quand la pandémie est arrivée en mars passé, ben... moi, j'avais déjà plus d'appartements, j'avais déjà des assurances, tout était planifié. Fait que dès que ça a été un peu plus sécuritaire pour le travail, je suis reparti en Europe parce que ça ouvrait l'été passé, si vous vous en souvenez. Alors, je suis allé en Turquie, je suis allé en Europe, je me suis ramassé au Mexique pour pouvoir rentrer à la présidentielle américaine. J'ai couvert la présidentielle américaine à partir du Texas. Et là, je suis... je reviens tout juste de Colombie, à Bogota plus précisément, parce que c'était un des pays d'Amérique du Sud qui avait ouvert ses frontières aux touristes en général. Alors, je suis allé passer là, 3 semaines là-bas pour faire des reportages. Et me voici, là, de retour au Québec.
OK. Est-ce que tu as constaté des endroits dans le monde où il avait soit vraiment échappé solide au niveau de la COVID, ou au contraire, qu'il avait tellement bien fait ça que c'était pratiquement réglé et on n'entendait pas parler du tout?
Ce qui était particulier, moi, j'ai vécu cet été, vous en souviendrez peut-être, là, à Londres. Moi, je suis arrivé une semaine après que le confinement... soit arrêté complètement là, en Angleterre, à Londres. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début juillet, là, les images des gens dans les pubs. Dans les pubs anglais, ils étaient dans la rue, ça buvait, les gens étaient bien chauds sur la rue. Et je dois vous avouer que dans les pays que j'ai visités, les Anglais, là, cet été, c'était pas facile. Ça respectait pas beaucoup de règles, okay. Ça portait pas beaucoup de masques. Les pubs étaient pleins tout le temps, ben du monde qui allait boire pendant l'été. Puis, ça avait été particulier parce qu'avant, j'avais été en Turquie. Puis, peut-être que pour certaines personnes, quand on se dit la Turquie, on connaît pas tout à fait le pays, puis on se dit, ouais, c'est quand même des grosses villes. Moi, j'étais à Istanbul, il y a à peu près 14 millions d'habitants. Ça a dû être compliqué. Ben honnêtement, à ce moment-là, la Turquie, là, c'était A1. Tout le monde portait des masques partout. Il y avait de la distanciation sociale. Ça respectait les règles. Il y avait beaucoup moins de cas. Mais faut dire que la Turquie, il y a beaucoup de tourisme. Et là, on voulait absolument s'assurer que des gens reviennent vers le pays. Alors, il y avait mis des règles en place, il y avait beaucoup de présence policière. Puis, pour vous donner un exemple là, de la situation, comment ça se passe dans le monde, tu sais, les pays, là, moi, ce que j'explique aux gens, c'est souvent, on a tous à peu près la même boîte à outils pour gérer la pandémie. Là. Il n'y a pas 8000 façons de gérer la pandémie. C'est pas comme sur d'autres sujets plus politiques où, selon les pays, on va faire des actions vraiment différentes. Là, pour vrai, tout le monde a à peu près le même paquet d'outils. Là. C'est soit des ports de masque, soit des couvre-feux, soit du confinement et tout ça. Et la seule différence, c'est vraiment l'acceptation de chacune des personnes puis comment ben on parvient à respecter ces règles-là ou pas. Fait que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, c'était beaucoup plus relax, là, surtout au Texas. Ouais. Il y avait beaucoup moins de règles. Mais c'est surtout que les gens les respectaient un peu moins. Puis tandis que même en Amérique du Sud, à Bogota, tout le monde porte le masque, ça se passait super bien. Puis l'exemple que je voulais vous donner, c'est que ça va quand même mal. Là. Cette deuxième vague-là qu'on parle, elle est mondiale. Elle est à différents degrés un peu partout sur la planète. Mais pour vous donner, c'est ça, un exemple, bien, en Turquie, actuellement, les mesures se resserrent. Puis la Turquie, c'est le premier pays qui avait ouvert ses frontières là au départ de la première vague. Là. Eux autres, ils ont rapidement fait ça. Fait que je me dis, si la Turquie est en train de refermer ses frontières parce que ça se passe pas bien chez eux, ça veut vraiment dire là, que ça se passe pas très bien à une bonne partie de la planète.
Il faut dire aussi que même si on a les mêmes outils, entre guillemets, il y a des cultures où on respecte plus l'autorité. l'autorité ou même dans un certain degré, le respect de l'autorité devient un peu de la peur de l'autorité. Là, tu sais, en discutant avec un ami qui en connaît un peu sur la Chine, me disait, en Chine, une des choses qu'ils font, puis qui explique pourquoi ils sont si nombreux, mais qui réussissent quand même à lutter contre la pandémie, c'est que bon, à la base, il faut que tout le monde reste chez eux quand il y a confinement, mais même si y a des choses qui sont ouvertes, des commerces, mettons, je vais te donner l'exemple d'un centre d'achat. Tu vas faire tes courses au centre d'achat, puis quelqu'un reçoit un résultat de COVID, il est en attente d'un test, il reçoit un résultat, puis il est positif au COVID. Ben là, il faut qu'il se dénonce lui-même, et puis il ferme tout le centre d'achat pendant 2 semaines. Fait que tout le monde qui se trouve là-dedans, bing, bing, bang, on ferme, il n'y a plus personne qui rentre, qui sort, sauf des escouades spéciales qui vont porter de la bouffe. Mais tu sais, une espèce d'affaire qui se pourrait pas ici. Donc, tu sais, on a les mêmes outils, oui et non, parce que, tu sais... Ici, il y a des méthodes de confinement qu'on pourrait pas utiliser. On pourrait pas mettre des agents de police devant les portes des gens ou souder des portes. Si je me trompe pas, c'est en Corée du Sud que ça s'est vu. Ou tu sais, vraiment, on enfermait les gens chez eux là, avec une coercition importante. Ça fait qu'on a, oui et non, les mêmes outils. Là,
ben, t'as les mêmes outils parce que tu pourrais faire ça. Après ça, c'est juste que selon les cultures, comme tu disais, Paul-Raphaël, on va utiliser un degré de force qui va être différent. C'est ça que je veux dire parce que c'est les mêmes outils. T'sais, pour moi, dans le fond, c'est de la surveillance. Et le meilleur exemple que j'ai pour toi, c'est en Turquie, la police va surveiller avec des drones dans les rues.
Ah ouais, c'est ça.
Ici, on verrait pas ça.
Ben non.
Ici, c'est des policiers dans leur voiture, puis c'est un certain nombre de policiers, puis ça va avec le respect. Mais ça va au-delà aussi de l'espèce de système politique. C'est juste aussi des mesures culturelles. Là, il y a une grosse discussion au Québec par rapport au temps des fêtes, à Noël qui s'en vient. Puis moi, je me souviens, le pire endroit où je suis allé, c'est l'Espagne. On en a beaucoup entendu parler, oui, de l'Espagne. À, oui, Madrid, moi, j'étais là en août. Là. C'est censé pas être la deuxième vague déjà. Pourtant, à Madrid, tout était fermé. Les gens pouvaient pas se rassembler. Il y a eu un confinement généralisé plus tard que début de l'automne. Ça se passe pas super bien en Espagne. Puis les gens comprenaient pas pourquoi ça se passait comme ça. Puis moi, je l'ai vécu, je suis allé. Il y avait un élément aussi culturel de la rencontre, du concept de famille, du désir de se voir à Madrid. Les gens, ça fait partie de leur habitude que le soir, vers 9-10 heures, ils vont au restaurant avec leur famille, avec le beau-frère, avec les enfants, avec tout ce monde-là. Alors, ils se ramassent autour de la table une dizaine de personnes. Puis si ça se passe à Madrid, ça se passait également dans les campagnes. Moi, je suis allé dans des campagnes, ouais, le vendredi soir, dans un village, la grande place était pleine. C'est juste, c'est comme ça. Ils ont des plus petits appartements. Puis l'esprit de famille est tellement important que quand ils se font dire, ben, vous n'êtes pas censé vous voir, puis que la limite, par exemple, c'est 8-10, ben, c'est automatique. Ils, ah ouais, vont y aller. C'est juste normal. C'est comme mettre leurs souliers le matin. Là. C'est, il y a aussi des éléments culturels qui vont diverger de pays en pays. Puis ça a été assez intéressant là, pour moi dans les 6 derniers mois de voir cette nuance-là quand même, là, de comment on peut s'adapter à ces outils-là qui sont utilisés pour essayer de prévenir la pandémie. Puis en même temps, il n'y a jamais de risque zéro. Là. C'est juste pas possible.
Voyager d'un pays à l'autre comme ça en temps de COVID, c'est-tu compliqué? Est-ce que vous étiez obligé de faire des quarantaines à chaque fois? Est-ce qu'on vous a interdit certains endroits? Comment vous en êtes sorti à ce niveau-là?
Il y a des pays qui sont toujours pas ouverts, qui ont jamais été ouverts là, pour les touristes. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis parti quand même pour faire du journalisme. Je suis parti pour le travail. Mais comme indépendant, dans certains pays, là, j'ai pas un visa spécial. Là. Il y a des gens qui se disent peut-être, là, oh, on sait bien parce qu'il est journaliste qui a pu entrer plus facilement. Non, moi, j'ai pris le chemin que n'importe quel touriste allait prendre. Fait que là, faut dire que pendant l'été en Europe, c'était plus simple. Les Canadiens étaient acceptés. Ça, il y avait moins de problèmes. Mais il y a plein de pays dans le monde qui ont jamais rouvert leurs frontières. Beaucoup en Asie, beaucoup l'Australie notamment, même en Europe cet été c'est compliqué, en Amérique du Sud. Et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec ma collègue, on est allé dans les pays qui nous permettaient d'entrer. On est allé en Turquie parce que c'est le premier pays qui ouvrait. Après ça, on s'est ramassé à Londres parce qu'il y avait un corridor aérien avec ce pays-là. Puis de ces endroits-là, on s'est déplacé. Puis un autre bon exemple, c'est que je me suis ramassé au Mexique pendant 2 semaines parce que pour pouvoir rentrer aux États-Unis, je pouvais pas le faire directement de l'Europe. Il fallait absolument que je passe soit par le Canada, et là, si je revenais au Canada, je faisais une quatorzaine obligatoire, ou ouais, j'allais au Mexique, où il y avait vraiment pas de règles. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, que ce soit pour des voyages, parce que là, je suis persuadé qu'il y a des auditeurs qui se demandent, est-ce que je vais dans le Sud, est-ce que je prends ce risque-là, s'il y a des gens qui pensent à ça, il faut se poser la question, ça veut dire quoi, faire du tourisme, puis il y a surtout une liste de choses à vérifier avant de partir. est-ce que le pays est ouvert? Est-ce que je suis capable d'avoir des assurances? Il y a certains pays même qui se sont mis à offrir des assurances eux-mêmes pour essayer de ramener des touristes. Après ça, si vous allez dans un pays, là, moi, je l'ai vécu. C'est pas parce que le pays est ouvert que les magasins sont ouverts, que les restaurants sont ouverts. Même si vous allez dans un tout-inclus, là, comment l'expérience va être de ce tout-inclus-là si, par exemple, il y a peut-être plus de buffet? Vous n'avez peut-être pas le droit d'être plus que 10 pendant que vous mangez. Le personnel, vous le croiserez peut-être pas. Bref, et c'est vraiment compliqué, la question du tourisme actuellement. Puis ça demande tellement d'étapes de préparation, puis de questionnements, puis d'appels. Les compagnies aériennes vous disent, appelez au consulat ou à l'ambassade. Quand vous appelez au consulat, puis à l'ambassade. Puis ils vous disent, ah, avez-vous parlé avec la compagnie aérienne? Oui, mais ils m'ont demandé de vous appeler, vous. Ah, ouais, mais c'est pas nous qui va vous dire de pas embarquer dans l'avion. C'est OK, mais à qui je dois parler. Ça devient un peu la maison des fous là, d'Astérix. C'est vraiment pas simple. Fait que, c'est vraiment compliqué là, pour vrai, se déplacer. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Là. Moi, mes souvenirs de voyage, là, c'est un peu de liberté. C'est, on s'installe dans l'avion, on finit par arriver, on s'installe à une terrasse. Là, il n'y a pas beaucoup de liberté. Là. Vous êtes tout le temps en train de regarder si votre voisin porte son masque. Si vous entendez tousser dans l'avion, là, c'est pire qu'une turbulence. Là. Tout le monde se tourne, tout le monde se regarde.
Avec les masques, ça doit-tu être affreux? Déjà que prendre un avion de 6-7 heures, un vol comme ça, c'est jamais très, très agréable hein, en classe économique, les genoux dans le dash, puis c'est jamais extrêmement plaisant là, comme moment. Et en plus, avec le masque, wesh!
Le masque, puis les avions sont pleins. Les avions sont redevenus pleins. Il y a moins de vols. Mais il y a moins de vols pour qu'on puisse remplir certains de ces avions-là. Fait que là, selon les compagnies aériennes, pendant un temps, moi, je l'ai vécu quand je partais à mi-juin, il y avait un espace d'un banc entre chaque personne. Et là, pour la plupart des compagnies aériennes, ça, cet élément-là, c'est terminé. Il y a des compagnies aériennes qui offrent encore des masques, qui offrent encore du gel antiseptique pour se nettoyer les mains. C'est le cas d'Air Canada. Là. Moi, j'ai pris un vol d'Air Canada tout récemment, puis ils m'ont encore offert cette trousse-là. Mais il y a plein de compagnies aériennes, là, c'est fini. Là. Ils vous demandent le masque à vous. Vous devez le porter quand vous rentrez dans l'avion. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas de masque, vous ne rentrez pas dans l'avion. Mais l'accompagnement derrière ça, il a vraiment changé. Puis il faut dire que les règles qui sont en place, de toute façon, ne les obligent pas spécifiquement à vous donner des masques, à vous donner du gel, à faire tout ça. On s'est adapté, oui, mais ça reste une expérience assez bizarre. Là. Moi, la première fois que j'ai été avec autant de monde dans un espace aussi restreint, c'est dans des vols transatlantiques de 6-7 heures. Puis ici, ben, on peut pas se rassembler à 5, 10, 15 personnes. Fait que c'est juste un clash tellement grand que ça crée un stress, là. Ça crée un stress parce que c'est ça. Vous faites accrocher par le gars à côté ou la mère de famille. Pis c'est sûr que vous y pensez, là. J'ai tué à la COVID tout d'un coup. L'autre tousse. OK, finalement, mon Dieu, je m'en vais-tu aux toilettes? Combien de personnes sont allées aux toilettes? Il y a quand même des recherches, des articles qui sont sortis qui disent que c'est une question de qualité d'air assez sécuritaire en avion par la manière de ventilation. Là. Je vous expliquerai pas le concept scientifique, je suis pas scientifique personnellement, mais l'expérience comme culturelle personnelle, il y a ben trop de monde coincé en même temps. Fait que moi, j'étais bien stressé.
Hey, merci Xavier d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter.
J'ai un souvenir à rappeler à Xavier parce que lui et moi, on s'est connus dans le monde du hockey, de l'arbitrage. Fait que Xavier. C'est juste ça.
Vous avez merci. Ça me rappelle malheureusement beaucoup de parties et des petites catégories également.
Les excellents dimanches soirs à l'Arena de Sainte-Foy. Hein?
Ah oui.
Hey, Xavier, tu nous envoies un message. Hein, si jamais tu repars ailleurs, on veut continuer d'entendre tes histoires.
Écoute, pour le moment, on met ça en veilleuse, mais ça se pourrait. En 2021, on verra. Avec l'arrivée de tous ces vaccins-là, je me dis qu'il y aura des choses à couvrir dans l'application ou du moins les tentatives de faire vacciner les gens.
Xavier Savard-Fournier, journaliste indépendant. Merci beaucoup.
Plaisir.
Salut, bye, bonne journée. OK, juste avant la pause, en 5 secondes, je vous donne un billet d'avion pour aller n'importe où sur la planète, il n'y a pas de COVID. Vous allez où?
Moi, je m'en vais en Floride, c'est sûr.
Direct, évidemment, on s'en doutait.
C'est là qu'il y a le moton.
C'est là qu'il y a le moton, comme disait Elvis.
Non, mais c'est t'as une résidence là-bas. En Floride. Bon, ouais, c'est là que Florida.
J'aimerais reprendre mon voyage annulé avec mes chums de filles là, au Nicaragua, mais politiquement, c'est pas la place. Fait qu'on, peut-être qu'on pourrait aller à Bali, mettons.
Oh, comme Occupation double, parfait.
Comme Occupation double, il y a plusieurs années.
Moi, mon billet est à vendre. J'ai aucun intérêt. Je voyage pas, ça m'intéresse pas. Fait que mon billet est à vendre.
Mon Dieu, que t'es plate.
Ben, je suis en toute transparence.
Et je retourne une troisième fois en Italie parce que je le conseille à tout le monde.
OK. Voilà. Ouais, personne ne se le demande?
Non.
Istanbul!
Ah oui, je ne vois pas Istanbul.